Paul Bilot, Nous deux. Chapitre 1er. Où l'auteur comprend la nécessité de passer tout de suite au dernier chapitre. L'amour, c'est nous deux. Riquette. Il n'y a pas trois façons de lire un volume, mais il y en a deux. Premièrement, commencer par le commencement et aller ainsi de page en page jusqu'à la fin. Cette façon est simple et logique. C'est la moins usitée. Deuxièmement, revenir à la première page après avoir couru à la dernière pour voir si ça finit bien. Cette seconde manière est la plus couramment employée et elle a pour résultat fréquent d'empêcher la lecture d'un volume dès qu'il est constaté que ça finit mal. Un auteur, tant soit peu avisé, devrait donc toujours rassurer le lecteur dès le premier chapitre. Le seul moyen pour cela est de commencer par le dernier. C'est ce que je vais faire. Chapitre dernier. Que vous dire de plus? Rien, sinon qu'ils sont très heureux, continuent à s'aimer et s'aimeront toujours. Fin. Et sans plus tarder, je commence l'histoire de Riquette et de Riquet, maintenant que je me suis assuré, pour qu'on la lise, une chance, si petite soit-elle. Chapitre 2. Riquette et Riquet peints par eux-mêmes. Si vous demandez à Riquet de vous faire le portrait de Riquette, il vous répondra
« Je l'aime ».«
Je l'aime », vous répondra Riquette si vous lui demandez de vous faire le portrait de Riquet. Ceci étant une histoire d'amour destinée aux amoureux, il était convenable et logique que la première déclaration des deux personnages fût une déclaration d'amour. Vous venez de les entendre. Vous devez donc savoir à quoi vous en tenir sur leur compte. Ils s'aiment. Chapitre 3. Les mêmes, peints par l'auteur. Et inutile de s'adresser à l'auteur pour obtenir des renseignements plus détaillés sur ses personnages. L'auteur n'ajoutera rien, par l'excellente raison que voici. En matière de sentiments, il faut se garder de heurter les goûts, et s'il commettait l'imprudence d'avouer que Riquette est blonde ou brune, l'auteur s'exposerait à la rendre immédiatement moins sympathique à son lecteur qui, lui, préfère peut-être les brunes ou les blondes. De même pour la lectrice, elle n'est certainement pas sans avoir une préférence marquée pour les bruns ou les blonds et s'intéresserait tout de suite moins à Riquette si elle savait pertinemment qu'il fût blond ou brun. Et non seulement l'auteur s'abstiendra de dépeindre Riquette et Riquet, mais il est bien résolu à vous fournir à leur sujet le moins d'indications possibles. Quelle en serait d'ailleurs l'utilité? Riquette et Riquet s'aiment, c'est là l'important. Que voudriez-vous savoir de plus? Comment ils se sont connus? Où ils se sont rencontrés? S'ils sont mariés, s'ils ne le sont pas? S'ils demeurent ensemble ou s'ils habitent séparément? Dans quel quartier? À quel étage? Quel est le prix de leur loyer? Comment ils s'habillent? Ce qu'ils mangent à leur repas? Etc., etc. L'auteur n'estime pas ces détails indispensables à son récit. S'il n'est pas suffisamment intéressant par lui-même, quel intérêt ces détails ajouteraient-ils? Aucun. Ils seraient plutôt nuisibles en précisant trop, et il ne faut jamais préciser les histoires d'amour. Elles n'ont rien à y gagner et ne peuvent qu'y perdre. Si nous nous plaisons aux contes de fées, c'est justement parce qu'ils restent vagues, mystérieux, et que nous ne savons jamais où cela se passe. Et comme on a raison de ne pas nous l'expliquer. Les plus merveilleuses descriptions demeureraient tellement au-dessous de notre propre imagination. En nous contant la Belle au bois dormant, pour nous la dépeindre, on nous dit simplement « Elle était belle. Rien de plus. À nous d'imaginer sa beauté et, comme nous avons presque toujours une comparaison toute prête dans le cœur, la belle devient aussitôt pour chacun de nous la plus belle. Quant au bois dans lequel depuis 100 ans dort cette belle, on se garde bien de nous le décrire. Ce serait l'abîmer en le faisant autre que nous souhaitons qu'il soit. Alors, selon les goûts ou les souvenirs de chacun, la belle dort au milieu de la forêt noire ou de la forêt de Compiègne ou même tout simplement dans le coin d'un tout petit bois, grand comme la main, peu fréquenté, presque ignoré, qu'on préfère cependant à tous les autres pour s'y être aventuré un jour de printemps, non pas afin d'y chercher la belle au bois dormant, mais pour s'y égarer avec sa belle au bois rêvant. Aussi, de Riquette et de Riquet, l'auteur ne vous dira que ceci. Vous voulez les connaître ? Écoutez-les bavarder, rire et s'embrasser. Bavardages, rires et baisers, toute leur histoire tient en ces trois mots que résume cet autre, l'amour. Chapitre 4. Tout petit dialogue. Avant de me connaître, mon Riquet, qu'est-ce que tu faisais ?
Je t'attendais. Et pendant que je t'attendais, qu'est-ce que tu faisais, toi ?
Oh, je me dépêchais pour ne pas être en retard. Chapitre 5. L'art de se débarrasser d'un voisin gênant.
Est-ce que c'est ici, monsieur l'employé ?
Oui, monsieur, mais dépêchez-vous de descendre, le train va partir.
Et l'employé continua sa route en criant le nom de la station avec une inintelligibilité qui est la caractéristique des conducteurs de train, dont la mission consiste surtout à renseigner les voyageurs. Au milieu d'une nuit noire, Riquette et Riquet descendirent du wagon, montèrent dans la voiture qui les attendait devant la gare et se firent conduire chez eux. Que ces deux mots « chez eux » ne fassent pas croire que Riquette et Riquet habitaient la province, non, et c'était la première fois qu'ils mettaient le pied dans cette ville où la meilleure chambre du meilleur hôtel de l'endroit avait été retenue d'avance. Mais partout où ils étaient ensemble, ils se trouvaient immédiatement chez eux. Et la chambre où ils entrèrent avait perdu déjà son caractère étranger et banal par le seul fait qu'elle devait abriquer Riquette et par le soin qu'avait pris Riquet de la faire préparer gaie, lumineuse, chaude, intime et tout embaumée du parfum des fleurs que préférait Riquette. Voici comment l'idée de ce voyage leur était venue. Deux jours auparavant, Riquette s'était écriée tout à coup. « Chérie, j'ai une idée !»«
Laquelle ?»«
Celle-ci. Nous allons prendre un indicateur de chemin de fer et une épingle, nous ouvrirons l'indicateur au hasard, nous y piquerons l'épingle en fermant les yeux et nous irons passer 48 heures dans la ville désignée par l'épingle sur l'indicateur. » Et voilà comment ils avaient choisi l'endroit où ils arrivaient ce soir. « Ah, je suis chez moi !» s'écria Riquette en pénétrant dans la chambre. « Des fleurs ! Oh, c'est gentil !»«
Tu ne t'en doutais pas ?»«
Non, mais j'en étais sûre !» Je ferai grâce au lecteur de la description de la chambre. Il importe moins d'en connaître l'état de lieu que d'en savoir l'impression produite sur Riquette. Or, puisque dès son entrée, elle s'était écriée « Des fleurs !» La chambre se trouve dès lors admirablement décrite. C'était une chambre où il y avait des fleurs. Revenons vite à nos deux amoureux que nous allons certainement trouver jasant, riant, heureux. Eh bien, pas du tout. Ils sont muets, immobiles, atterrés, car ils viennent de faire deux découvertes terribles. La première, c'est que les cloisons de leur chambre sont d'un mince. Et la seconde, c'est qu'ils ont un voisin qui n'est pas encore couché et qui se promène chez lui, faisant du bruit, parlant tout seul, un voisin enfin qui a toutes les apparences de quelqu'un ne semblant guère avoir envie de dormir et ne paraissant pas disposé du tout à se coucher de bonne heure. Et pour des amoureux prêts à se coucher tout de suite, sinon à dormir immédiatement, ce voisin éveillé, à travers cette cloison mince, c'était d'un gênant. « Il n'y a qu'une chose à faire, » dit Riquette, « changer de chambre. »«
Absolument, »
dit Riquet.
« Attends-moi un instant, je reviens. »
5 minutes après, il revenait en effet, mais pas vite, pas fier. « Eh bien ?» demanda Riquette.
« Eh bien, ma pauvre chérie, tout se met contre nous. Il n'y a plus une seule chambre de libre. »
« Oh, voyons, ce n'est pas possible !»
« C'est que tu ne sais pas. Demain, on inaugure le buste d'un grand homme de la ville, et ce soir, naturellement, tous les hôtels sont bondés. »«
Oh, mais il nous ennuie, le grand homme de la ville.
Quand je pense,
ajouta Riquet,
qu'on inaugure peut-être demain qu'un seul buste dans toute la France, et il faut que nous tombions dessus. Crois-tu que c'est pas de chance ?
Et, en disant cela, il avait l'air si désolé, si contrit, que Riquet oublia sa propre contrariété pour le consoler. « Que veux-tu, mon chéri ? » fit-elle avec une gentille philosophie de circonstance. « Ce qui nous arrive là, c'est pas de chance, j'en conviens. Mais enfin, il y en a de plus malheureux que nous. Et nous serions vraiment trop heureux si nous l'étions tout le temps. »«
Adorable, mon petit cœur, va !»
murmura-t-il en l'embrassant, mais tout bas à cause du voisin. Elle se dégagea et commença à se déshabiller rapidement en disant « D'abord, moi, j'ai très, très fatigué ce soir et je serai ravie de m'endormir de bonne heure. »«
Chère menteuse !»«
Eh bien, tu vas voir. Une fois dans le dodo, toc, Riquette ferme ses nez et elle dort. »«
Ce que j'admire en toi, »
dit Riquet attendri,
« c'est que, quoi qu'il arrive, tu trouves toujours le moyen d'être de bonne humeur. »
« Le moyen est à la portée de tout le monde, car en quoi consiste la bonne humeur ? À n'avoir de préférence pour aucun ennui. C'est pourquoi le voisin peut rester réveillé toute la nuit, moi ça m'est égal, puisque je dormirai. »«
Tu l'entends cet animal-là ? »
dit Riquet.
« Il continue à se promener et à parler tout seul. »«
Attends, » dit Riquette, « je vais lui répondre. » Et, se tournant vers la cloison, elle esquissa un joli pied de nez en disant « Tiens, le voisin, voilà pour toi. » Puis, revenant vers Riquet, elle ajouta « Seulement, il faut absolument trouver un moyen de nous débarrasser de lui pour demain soir. »
« Ah oui, par exemple, nous allons chercher ensemble une fois couchés. »
« Alors, couchons-nous vite, vite !»«
C'est égal !»
murmura Riquet.
« Tu diras ce que tu voudras, c'est tout de même de la malchance. »
« Peu !» dit Riquet qui avait fini de se déshabiller. « La malchance ? Voilà ce que j'en fais, moi. Je saute par-dessus et dans le lit !» En un clin d'œil, elle disparut sous les draps, qui probablement devaient être un peu frisqués, car elle se mit en grelottant à réciter d'une voix lamentable le petit savoyard de Guiraud.
« J'ai froid. Vous qui passez, daignez me réchauffer. »
« Madame désire une boule, »
répondit Riquet.
« Voilà !»
Et, en un second clin d'œil, Riquet fut près de Riquette, en boule. Et pendant qu'ils cherchaient tous les deux la manière de se débarrasser de lui, le voisin se promenait toujours. À quelle heure exactement Riquette et Riquet s'endormirent-ils ? Je l'ignore. Mais ils s'endormirent en même temps, ce qui leur fut une consolation, car pour eux, s'endormir en même temps, c'était commencer à rêver ensemble. Le lendemain matin, quand ils s'éveillèrent, il faisait grand jour, le ciel était bleu, la chambre sentait bon, Riquette était jolie et le voisin ne se promenait plus. À leur air enchanté, il était facile de deviner qu'ils avaient dû trouver le moyen cherché d'exproprier leur gêneur. Seulement, ils ne le confièrent à personne, voilà pourquoi je ne peux pas encore vous le faire connaître. Lorsqu'arriva l'heure du déjeuner, ils étaient levés, habillés, prêts à se mettre à table. D'habitude, ils prenaient leur repas, soit dans leur chambre, soit au restaurant à une table séparée, mais cette fois-ci, ce fut à la grande table de l'hôtel qu'ils allèrent s'installer avec tout le monde. Avant de pénétrer dans la salle à manger, Riquet avait eu un court entretien avec le patron de l'hôtel. Dès qu'il fut assis à table, à côté de Riquette, il lui dit tout bas.
« Tiens, c'est le monsieur qui est presque en face de nous, à gauche, entre la dame en rouge et le vieux trop décoré. »«
Bien, » dit-elle, « et nous devons l'avoir encore ce soir pour voisin ?»«
Oui, il ne part qu'après-demain. »«
Alors, nous n'avons pas le droit d'hésiter. » Puis ils se mirent à parler plus haut et à causer de choses insignifiantes. Mais bientôt, il se produisit un fait absolument extraordinaire. Lorsque Riquette se trouvait en public avec Riquet, elle ne regardait que lui et ne voyait plus personne. En ce moment, c'était tout le contraire. Elle ne semblait pas voir Riquet et regardait à chaque instant un autre monsieur, le monsieur qui lui avait été désigné entre la dame en rouge et le vieux trop décoré. Un homme n'est jamais longtemps à s'apercevoir de l'attention que lui accorde une femme. Aussi, le monsieur regardé par Riquette remarqua bientôt qu'une femme le regardait. Il en résulta immédiatement chez lui un changement d'allure bien amusant pour un observateur. D'abord, il se redressa sur sa chaise où il improvisa une attitude plus noble. Puis, il modifia sa façon de se nourrir. Il atténua le gros appétit qu'il semblait avoir pour manger avec moins d'empressement matériel, plus de détachement, de distinction, de vaporeux dans l'alimentation. À côté de cela, une préoccupation constante de ne pas être naturel et simple dans la manière de se servir, de rompre son pain, d'interpeller le garçon, de verser à boire à sa voisine ou de demander du sel à son voisin. Enfin, le petit manège habituel d'un homme qui, l'instant d'avant, ne songeait pas à plaire et qui a cru remarquer tout d'un coup qu'il plaisait. Cela dura ainsi jusqu'à la fin du déjeuner. En se levant de table, le monsieur cambra la taille, bomba la poitrine et demeura une minute immobile, absorbé, songeur. Cela pouvait être pris aussi bien comme la réflexion de quelqu'un accablé d'occupations graves que la recherche d'une occupation par un homme qui n'avait que des loisirs. Il se dirigea vers la porte en tirant machinalement de sa poche un paquet de cigarettes, mais il réfléchit sans doute car il fit vivement disparaître les cigarettes et dit d'une voix assez haute
« Garçon, donnez-moi des cigares !»
Il en choisit un, le plus gros, et sortit pour aller fumer dans le jardin de l'hôtel. C'est là que, quelques instants après, Riquet le rejoignit et, très aimable,
« Pardon, monsieur, pourrais-je vous dire deux mots ?»«
Parfaitement, monsieur !»
répondit l'autre, qui ne reconnut pas tout d'abord Riquet, par la bonne raison qu'il s'était surtout occupé de Riquette.
« De quoi s'agit-il ? » ?»«
Voici. Tout à l'heure, pendant le déjeuner, vous avez dû remarquer que ma femme vous regardait beaucoup. »«
Votre femme ?»
répéta le monsieur, examinant plus attentivement son interlocuteur. Il le reconnut alors et pensa.
« Diable, c'est un mari jaloux. Tenons-nous bien. »
Riquet poursuivit.
« Et de votre côté, vous l'avez regardé aussi assez souvent. »«
Moi, monsieur, pas du tout. Vous vous trompez. »«
Rassurez-vous. »
dit doucement Riquet.
« Je ne viens pas vous chercher querelle. Au contraire. »«
Au contraire ?»
dit l'autre, ne comprenant pas très bien.
« Je viens vous apporter des excuses. »
Cette fois, le monsieur n'y était plus du tout.
« Oui. »
continua Riquet.
« Car si vous ignorez pourquoi ma femme vous a regardé ainsi, moi je le sais. »
« Alors, monsieur, expliquez-vous, je vous en prie. »
Riquet sembla se recueillir un instant, puis à brûle-pourpoint.
« Est-ce que vous savez, monsieur, que vous ronflez en dormant ?»«
Plaît-il ?»«
Je vous demande si vous savez qu'en dormant, vous ronflez. »«
Je ronfle, moi ?»«
Vous l'ignoriez, je m'en doutais. »«
Mais vous, monsieur, comment le savez-vous ?»«
D'une façon très simple, c'est bien vous, n'est-ce pas, monsieur, qui occupez la chambre numéro 14 ?»«
En effet. »
« Eh bien, ma femme et moi, nous habitons la chambre 13, à côté de la vôtre, et les cloisons d'hôtel sont si minces que, vous comprenez, si j'avais été seul... »«
Ajouta-t-il. »«
Jamais je ne me serais permis de... Mais il y a ma femme. »«
Ah ! Madame a remarqué ?»«
Il lui eût été bien difficile de faire autrement, d'autant plus que, je vous demande pardon de ce détail, vous ronflez d'une façon au-dessus de la normale. »«
Ah ! Vraiment ?»
dit le monsieur en tirant des bouffées rapides, mais sans fumée, de son cigare éteint.
« Alors, »
continua Riquet,
« ma femme a cherché à savoir quel était le voisin qui l'avait empêché de dormir cette nuit. Et quand elle s'est trouvée en face de vous tout à l'heure, vous avez peut-être remarqué qu'elle avait, en vous regardant, un certain petit sourire sur les lèvres.
« Non, je n'avais pas remarqué. »
fit l'autre assez sèchement.
« Ah, tant mieux. » Mais, craignant que son attitude ne vous eût offensé, j'ai tenu à vous en expliquer la raison, en vous présentant toutes mes excuses.
« Je vous remercie, monsieur. »
« Et comme je comprends très bien, »
dit Riquet,
« qu'il vous serait peut-être désagréable, après ce que je viens de vous apprendre, de vous retrouver en face de ma femme, je m'arrangerai pour que nous ne dînions pas en même temps que vous.
« Oh, ne vous gênez pas !»
dit vivement le monsieur.
« Justement, je ne dîne pas ici ce soir. Vous pouvez dire à madame qu'elle pourra dormir tranquillement cette nuit, car je ne couche pas non plus. »
« J'espère, »
fit hypocritement Riquet,
« que ce n'est pas à cause de ce que je vous ai dit. »«
Du tout, du tout !»
répondit le monsieur d'un petit ton dégagé.
« Je devais partir dans la journée. »
Il tira sa montre et, avec une surprise admirablement jouée,
« 2 heures, déjà, et mon train est à 3 heures. Je vous demande pardon, mais je suis un peu pressé. Monsieur ?»«
Monsieur. »
Et, se saluant, les deux hommes se quittèrent. Riquet courut retrouver Riquette qui l'attendait dans la chambre. « Eh bien » demanda-t-elle, « ça a réussi ?»«
Si ça réussit, c'est-à-dire que... »
Il s'arrêta, faisant un signe.
« Chut !
Qu'y a-t-il ? » ?»«
Chut ! Tais-toi !»
Il s'approcha d'elle sur la pointe des pieds, sans bruit, et, la prenant par la main, il entraîna avec précaution tout contre la cloison qui les séparait de la chambre du voisin, et dit
« Écoute !»
Une porte venait de s'ouvrir brusquement à côté, et quelqu'un était entré comme une bombe. « C'est lui ?» demanda la bouche de Riquette à l'oreille de Riquet.
« C'est lui !»
répondirent les lèvres de Riquet à l'oreille de Riquette. « Tu lui as parlé ?»«
Oui. »«
Et alors ?»«
Il ne couchera pas là ce soir. »«
Vrai ?»«
Il ne dînera même pas. »«
Non !»«
Il s'en va tout de suite. »«
Ah !» Cette nouvelle inattendue, annoncée dans une conversation à voix basse entre deux personnes collées contre une cloison, eut pour effet désastreux de mettre Riquette en gaieté, et, chez Riquette, la gaieté n'allait jamais sans le rire. Or, dans les circonstances présentes, un éclat de rire était particulièrement dangereux, car il pouvait éveiller les soupçons du voisin et lui faire comprendre qu'il avait été victime d'une mystification. Aussi, au moment où le rire fatal allait éclater, les lèvres de Riquet l'étouffèrent net sur les lèvres de Riquette, et Riquet entraîna Riquette à l'autre bout de la chambre, sans rendre la liberté à son rire, mais en continuant au contraire à l'emprisonner pour l'empêcher de s'évader. Et ce fut alors une lutte adorablement folle entre ce rire qui se débattait comme un petit diable et ses lèvres qui s'unissaient tant qu'elles pouvaient pour l'étrangler. Malheureusement, le rire est contagieux et surtout respiré d'aussi près. Riquet sentit bientôt qu'il allait être pris à son tour et il entrevit la catastrophe qui se préparait, catastrophe dont la conséquence était trop grave pour qu'il ne cherchât pas à tout prix à l'éviter. Brusquement, il saisit Riquette dans ses bras et, ses lèvres plus que jamais serrées contre les siennes, il l'emporta vers le lit où il se jeta avec elle. Puis, s'emparant d'un oreiller, il l'appliqua fortement sur leurs deux têtes réunies comme un étouffoir, sous lequel le rire put s'échapper enfin, mais assourdi, sans éclat, et surtout sans danger. Pendant ce temps, le voisin achevait sa malle, la faisait enlever et quittait sa chambre, non sans mauvaise humeur, car la façon bruyante dont il avait fermé la porte, en s'en allant, indiquait assez qu'il n'était pas content. En somme, il y avait de quoi. Un homme est toujours un peu vexé d'apprendre qu'il ronfle, alors qu'il ne s'en doute pas, et celui-là aurait eu le droit d'être plus vexé encore s'il avait pu se douter qu'en réalité, il ne ronflait pas du tout. Quant à la chambre devenue libre, vous devinez qu'elle ne le fut pas longtemps. Afin d'éviter quelque autre voisinage gênant, Riquet la retint immédiatement en prétextant auprès de l'hôtelier un peu de fatigue de madame qui désirait, dit-il, un lit à part pour mieux se reposer. Inutile d'ajouter que ce n'était pas vrai, attendu que ce soir-là, Riquette et Riquet, possédant 2 chambres, n'en firent qu'une et, disposant de 2 lits, n'en défirent qu'un. Chapitre 6. Prise de bec.
« Je vais t'expliquer pourquoi je suis en retard, » dit Riquette encore tout essoufflée. « Oh, ce n'est pas de ma faute, va, mon pauvre chéri !» Au contraire, car en montant en voiture, j'avais été sur le point de dire au cocher « Rapidement, cocher, je suis très pressé, je vais retrouver Riquet. » mais j'ai pensé qu'il irait probablement plus vite avec la promesse d'un bon pourboire. En effet, puisqu'il partit au galop. Du train dont il allait, j'étais sûre d'arriver en avance, et tu penses si j'étais contente? Mais tout à coup, voilà le cheval qui fait un faux pas et qui tombe. Je me disposais à sauter dans une autre voiture. Heureusement, le cheval se relève et nous repartons. 50 mètres plus loin, Riquet, nous accrochons en omnibus. Rien de cassé, une vraie chance. Et nous refilons. Mais bon, au tournant d'une rue, nous renversons une vieille dame. Par bonheur, rien de cassé non plus. Une grosse émotion pour Riquette, et pour la vieille dame, plus de peur que de mal. Mais tu t'imagines, n'est-ce pas, dans quel état d'énervement me mettaient tous ces accidents? C'était autant de retard. Je me disais, et Riquet qui m'attend, que doit-il penser, mon Dieu? Qu'est-ce que tu as pensé, mon gros chien? Probablement un tas de choses invraisemblables, folles. Et je suis sûre que tu ne t'es pas dit un seul instant, si Riquette est en retard, c'est que son cheval est tombé, qu'elle a accroché un omnibus et renversé une vieille dame. N'est-ce pas que tu n'as pas pensé à rien de tout cela? Moi-même, est-ce que je pouvais prévoir ce qui est arrivé? Alors, comment l'aurais-tu prévu, toi, mon bon rat? Ce n'était pas possible. Eh bien, voilà ce qui m'a retardé, mon amour. Et comme tu n'en savais rien, c'est pour que tu le saches que je tenais à te l'expliquer. Ouf! Pauvre Riquette. Ah, elle avait bien tort de se donner tout ce mal pour fournir toutes ses explications. Car Riquet n'écoutait pas une seule de ses paroles, tant il était occupé à regarder la mignonne petite bouche qui les prononçait.
Tiens,
dit-il tout à coup, comme s'il faisait une découverte.
Tu as apporté ton bec.
Et je l'ai apporté pour me faire pardonner d'être en retard.
Ah, ce n'était vraiment pas la peine de l'apporter, si tu le gardes pour toi toute seule.
Tu as raison, dit Riquette. Tiens, le voilà, mon bec. Tu me le rendras.
Oui.
Il le prit. Mais ne voilà-t-il pas qu'il voulait le garder? Ah non, non, décidément, on ne pouvait pas avoir confiance dans les promesses de Riquet. Enfin, il se décida tout de même à le rendre, pas par honnêteté, oh non, mais par égard pour l'amour-propre de Riquette, qui, sans son bec, fut devenu un pauvre petit oiseau bien défiguré. Chapitre 7. Riquette cause avec un vieux monsieur. Suivre une femme dans la rue est facile. Où la difficulté commence, c'est dans la manière de lier conversation. L'ignorance où l'homme se trouve du caractère de la femme, de sa condition, de ses goûts, de ses idées, tout cela ne laisse pas que de rendre assez délicat le choix de la phrase de début. Cette phrase, en effet, doit éviter la brusquerie de l'attaque pour ne pas trop éveiller la défense. Car son véritable but est moins d'engager la conversation que de l'engager de façon à être encouragé à la continuer. Il y a des femmes, évidemment, qui encouragent tout de suite et répondent immédiatement aux premiers mots d'un homme. Il y en a même qui parlent les premières, mais celles-là, ce qu'elles cherchent en se promenant, ce n'est pas précisément une conversation, c'est plutôt un entretien. Il y en a d'autres qui répondent moins aisément. Il y en a enfin qui ne répondent pas du tout. Un des soucis de Riquet était la pensée qu'on pouvait suivre Riquette, lui parler quand elle allait seule dehors.
« Je suis sûr, »
lui dit-il un jour, en affectant un ton dégagé qui cachait un réel tourment, car Riquet était un peu jaloux.
« Je suis sûr qu'on te suit quand tu passes dans la rue. »
Riquette, qui adorait taquiner Riquet, répondit « Naturellement qu'on me suit !» Quand ce ne serait que les gens qui sont derrière moi, comme je suis, moi, ceux qui sont devant.
Tu vois, tu plaisantes. C'est très adroit, hein, cela évite de répondre franchement.
La franchise était la qualité maîtresse de Riquette, et lorsque, même en riant, on mettait en doute sa franchise, oh, elle n'aimait pas ça, Riquette. Eh bien oui, on me suit tout le temps. Là, es-tu content ?
Oh non, non, je veux pas qu'on te suive.
Dit-il en prenant un air de pauvre chien battu. Gros bêta, va ! Répondit-elle tout de suite radoucie. Est-ce qu'une femme peut empêcher qu'on ne la suive ? Et puis, quelle importance cela a-t-il ? Aucune, mon chéri.
Oui, je sais bien, mais cette idée qu'on est derrière toi, qu'on se rapproche, qu'on te parle, qu'on te dit des choses...
Et comme elle ne bronchait pas...
Car on te parle, c'est certain, il y a des hommes si... Mais du moins...
Ajouta-t-il vivement.
Tu ne réponds jamais, n'est-ce pas ?
La question était vraiment trop bête, adressée à la femme qu'était Riquette. Aussi, elle se contenta de lever, avec une pitié indulgente, les yeux vers le ciel, comme pour le prendre à témoin de la folie subite de Riquet. Et celui-ci, loin de se sentir rassuré, s'inquiéta aussitôt désespérément de ce mutisme.
« Je te demande si tu réponds, et tu ne me dis pas non. Alors quoi ? C'est vrai, quand on te parle dans la rue, tu réponds ?»
Elle le regarda et dit simplement « Oui. »«
Riquette !»«
Je réponds toujours. Je réponds tout de suite. Je réponds même quelquefois avant qu'on ne me parle. » Riquet comprit.
« Oui, ben je vois bien. Tu te moques de moi. »«
Tu crois ?»
« Et tu as raison, car je suis stupide. Mais ne m'en veux pas, je t'aime tant. »«
C'est ça, » fit gentiment Riquette. « Monsieur accapare le monopole pour lui tout seul. Il m'aime, mais moi je ne l'aime pas. »«
Si, si tu m'aimes, je le sais, je le sens. »
« Eh bien alors, grand imbécile adoré que tu es, ne te tourmente donc de rien. Et qu'est-ce que ça peut bien te faire, je te le demande, qu'on me suive dans la rue ? D'abord, quand on me suit de trop près, j'ai trouvé un moyen bien simple de me débarrasser des gens. »«
Un moyen ? Ah ?»
fit Riquet rayonnant.
« Lequel ? » ?»«
Je me défigure. »«
Quoi ? » ?»«
Je dis, je me défigure. » Tu vas voir comme c'est vivement fait. D'abord, je rentre ma lèvre supérieure sous ma lèvre inférieure, ce qui rapproche mon nez de mon menton. Ensuite, je fais des yeux de chèvre morte, ou du moins très très malade. Je louche même un peu. Et puis, je me retourne vers le monsieur. Comme ça, en détail, ça ne dit trop rien, mais il faut voir l'ensemble. Tiens, je suppose que tu es le monsieur, toi. Eh bien, regarde. » Et brusquement, elle présenta à Riquet une Riquette si défigurée, en effet, qu'il ne put s'empêcher de s'écrier.
« Ah, t'as pas beau comme ça. »
C'est exactement l'impression éprouvée par le monsieur qui s'arrête net et s'éloigne en se disant « Oh là là là, et moi qui la croyais jolie !»«
Vrai ? Tu fais cela ?»
cria Riquet enchanté.
« Oh tiens, tiens, tu es un amour, et je t'adore !»
Puis, presque aussitôt, se ravisant.
« Oui, mais... »«
Quoi, oui, mais... Quoi encore ? Parle ! Tu es en train de dire des absurdités, mon chéri. Ne t'arrête pas, va jusqu'au bout !»«
Eh bien... »
reprit Riquet, encouragé par l'intonation affectueuse de Riquette.
« Eh bien, il doit arriver que des gens te voient avant que tu n'aies eu le temps de te défigurer. »
« Ça oui !» dit-elle en riant. « Car tu ne t'imagines pas que je me promène tout le temps avec l'horreur de figure que tu as vue tout à l'heure ? Ah non, j'aime mieux la mienne !»
Alors, ceux qui la voient, cette figure-là, ne s'éloignent pas, ils se rapprochent au contraire. Et... »
ajouta-t-il, préoccupé décidément par son idée fixe.
« Et ils te parlent. »
« Ça arrive. »
« Et tu as également un moyen de t'en débarrasser de cela ?»
« Parfaitement. »«
Ah ?»«
Un moyen, tiens, que j'ai employé aujourd'hui même avec un vieux monsieur qui... »«
Qui t'a parlé ?»«
Pendant 10 minutes. »«
Ah ? Et qu'est-ce qu'il t'a dit ?»«
Tu vas le deviner en sachant ce que je lui ai répondu. » Riquet eut un sursaut.
« Comment ? Répondu ? Mais tu m'affirmais tout à l'heure que tu ne répondais jamais. »«
Eh bien, j'ai fait une exception pour celui-là. »«
Riquette ! »
Elle eut un bon sourire bien rassurant. « Attends donc avant de toujours t'emballer, vilain chien rageur !»« Oui, je lui ai répondu, mais en moi-même, en moi toute seule, sans lui parler.
Ah, bon.
Tu es tranquille maintenant ? Et voilà ce que je lui disais, en moi toute seule, au vieux monsieur. Oui, oui, le vieux monsieur, oui, je suis jolie, c'est entendu. Seulement, voilà, c'est pas à vous que je tiens à plaire. C'est à un autre. Qui ? Riquet. Vous dites ? Ah, vous m'invitez à déjeuner ? Comme ça tombe mal. Justement, je suis invitée. Par qui ? Par le bon petit Riquet, chéri à moi. Hein ? Vous me demandez de vous aimer ? Je l'attendais. Alors, vieux monsieur, vous vous êtes imaginé que j'allais vous aimer comme ça, tout de suite, sans hésiter ? Mais vous ne savez donc pas, ignoble vieux monsieur, que Riquet, lui, m'a aimé pendant des mois avant que je l'aime. Et quand je l'ai aimé, il a fallu des mois pour que je le lui avoue, et des mois encore avant que je le lui prouve. Ça vous étonne, hein ? Eh bien, c'est comme ça. Et si j'ai un bon conseil à vous donner, c'est de ne pas insister. Sinon, je vais vous dire tout haut ce que je suis en train de me dire tout bas, et ça ne va pas tarder. Ah, mais... Car il commençait à me porter sur les nerfs, tu sais, le vieux monsieur. Aussi, je n'ai pas été longue à m'en débarrasser.
Ah oui,
dit Riquet.
Les yeux de chèvre malade, la lèvre supérieure.
Non, non, mieux que ça. Tu comprends que, moi, maligne, j'ai pas qu'un moyen. Je lui ai dit brusquement, avec toutes les apparences d'une terreur folle. Prenez garde, monsieur, j'ai un mari très jaloux, très violent, et en ce moment, il me suit pour faire un mauvais parti aux gens qui me parlent. Ah, mon chéri, ajouta Riquet en éclatant de rire. Si tu avais vu l'effet de cette phrase sur le vieux monsieur.
Il s'est arrêté ?
Arrêté ? Ah bien oui ! Il a sauté dans un fiacre pour échapper plus vite à mon mari très jaloux et très violent.
Non.
Si. Et qui était-ce, le mari très jaloux et très violent à Riquet ? C'était Riquet. Et, enchantée de cette bonne farce, elle conclut. Je ne sais vraiment pas pourquoi les hommes s'obstinent à courir après les femmes. Ce sont toujours eux qui sont attrapés. Chapitre 8. Le bon Dieu prend à son compte un péché de Riquette. Mon Riquet, sais-tu à quoi je pense en ce moment ?
Non, ma Riquette, mais je ne serai pas longtemps sans le savoir.
Parce que ?
Parce que, de même que tu penses toujours tout ce que tu me dis toujours tout ce que tu penses. Voilà pourquoi, parce que. Et à quoi penses-tu, mon trésor ?
Je pense au bon Dieu.
Au bon Dieu ?
Répéta Riquet en ouvrant de grands yeux plutôt étonnés. Car jamais, jusqu'ici, Riquette n'avait soulevé de questions théologiques.
Oh bon Dieu ! Et à propos de quoi penses-tu au bon Dieu ?
À propos d'une nouvelle que je viens de lire dans ce journal.
Laquelle ?
La suppression des aumôniers dans l'armée et dans la marine.
Oh !
Fit Riquet.
Ça, c'est de la politique.
Et sais-tu, continua Riquette, pourquoi on veut les supprimer, les aumôniers ? Sous le prétexte qu'ils sont inutiles, puisque le bon Dieu n'existe pas.
Le prétexte n'est peut-être pas très sincère. En tout cas, le raisonnement est logique.
Logique ? Mais c'est absurde ! Mais il existe, le bon Dieu. La preuve qu'il existe, c'est qu'il est bon. Pour être bon, il faut exister. Or, puisque Dieu est bon, c'est donc qu'il existe. C'est clair ? Riquet tenta une objection à la dialectique de Riquette.
Il est bon,
dit-il.
Qu'est-ce qui le prouve ?
« Oh ! » fit-elle avec reproche, « c'est toi qui me demandes ça ?» Et elle ajouta, avec une conviction où parlait tout son cœur, « Mais la meilleure preuve que Dieu est bon, mon chéri, c'est que nous nous sommes rencontrés et que nous nous aimons. » À un pareil argument, que pouvait répondre Riquet ? Rien. Il y a des preuves qu'on n'a plus davantage à admettre qu'à discuter. La suite de la conversation en fut un nouvel exemple. Et si, ce soir-là, Riquette entraîna Riquet à commettre un péché, je doute que le diable ait marqué ce péché à son actif, car certainement le bon Dieu, à moins d'être un ingrat, a dû lui dire
« Non, celui-là, je le prends à mon compte. »
Chapitre 9. Variation sur l'amour. « Ah, c'est monsieur qui est en retard aujourd'hui. Et d'où vient monsieur pour être en retard ?»«
Je viens de ce concert dont je t'avais parlé et auquel je ne pouvais me dispenser d'assister. »
« Et c'était beau, au moins, le concert qui a retardé Riquet ?»«
Peu. Mais par exemple, j'ai entendu là un violoniste, oh, qui a joué comme un amour. »«
Pardon, monsieur, je vous défends, vous m'entendez, d'employer ce mot « amour » en dehors de ce qui n'est pas exclusivement nous deux. Vous ne voyez donc pas, misérable, que vous le profanez ?»«
C'est vrai. »«
Alors, dépêche-toi de le réhabiliter par un baiser. »
Je l'ai tellement offensé que je me demande si un seul baiser suffira.
Ne t'inquiète pas du second, je m'en charge.
Ah, bon, voici le premier.
Et voici le second. Tu comprends bien, mon chéri, qu'il y a des mots qui sont faits spécialement pour nous, et amour est de cela.
Il est si gentil, ce mot-là.
Raison de plus pour ne pas l'abîmer.
Et dire qu'on n'a jamais donné une vraiment bonne définition de l'amour.
Non ?
Évidemment, il y en a 50, 100, mais non, ce n'est pas ça.
Une définition de l'amour ? Je vais t'en donner une tout de suite, moi.
Oh oh !
Comment, oh ?
Depuis que l'amour existe, songe donc que tout le monde s'y est mis pour le définir. Les philosophes, les penseurs, les romanciers, les poètes, et même les mathématiciens. Et personne n'a encore rien trouvé d'absolument satisfaisant.
Riquette va trouver, elle.
Eh bien, trouve.
Nous disons une définition de l'amour. Voici, nous deux.
Chérie, tu es gentille, mais ce n'est pas une définition, ça, mon bon trésor.
Nous deux, ce n'est pas une définition. Cite-moi une autre qui vaille celle-là. Non, je t'en prie, cite-moi une.
Je t'en citerai 10, 20.
Vas-y, cite-les. Mais je suis sûre d'avance qu'il n'y en a pas une seule qui ne se résume en la mienne, nous deux, et qui soit même aussi bien. Allez, monsieur, allez, je vous écoute.
Voyons. Il y a d'abord la définition la plus connue, qui est de Boufflet.
Bon, je l'attends, ton monsieur Boufflet. Et qu'est-ce qu'il a dit ?
Ceci. L'amour est l'égoïsme en deux personnes.
Qu'est-ce que je disais ? Nous deux. Et ma définition est bien moins longue que la sienne. Ensuite...
Une autre de Leibniz.
Je l'attends aussi, Leibniz, avec son nom qui a l'air d'un éternuement. Voyons ce qu'il a trouvé, lui, Leibniz.
Aimer, c'est être porté à prendre du plaisir dans le bien et le bonheur de l'être aimé.
Nous deux. Continue.
De Balzac. L'amour est la poésie des sens.
Nous deux.
De Victor Hugo. L'amour, c'est être deux et ne faire qu'un.
Nous deux.
Un homme et une femme.
Riquet et Riquette.
Qui se fondent en un ange, c'est le ciel.
Nous deux. Nous deux. Nous deux. Tu vois ?
C'est vrai cependant que ta définition répond à toutes les autres.
Et les autres, ils leur font des phrases compliquées, alambiquées, qui n'en finissent plus. Tandis que moi, c'est simple, c'est clair, deux mots seulement. Nous deux. Et ça en dit autant. Ça en dit même plus, puisque ça dit tout.
Ce qui me plaît en toi, Mariquette, c'est que tu as un esprit qui a du cœur.
À quoi servirait le cœur, mon chéri, si ce n'était à rendre hommage à l'amour ?
Comme c'est juste ce que tu dis là. Et comme, dès qu'il s'agit de l'amour, tu exprimes tout naturellement des pensées exquises. Eh bien, parlons-en de l'amour, Mariquette. Parle, parle, je t'écoute.
Moi aussi.
Comment, toi aussi ?
Moi aussi, je t'écoute. Dame, pourquoi serait-ce Riquette qui parlerait plutôt que Riquet ? Et Riquet qui écouterait plutôt que Riquette ?
Alors c'est moi qui parlerai.
Non, je veux que ce soit moi maintenant.
Alors parle,
Non, je veux que ce soit toi.
Eh bien oui, ce sera moi. Et je te parlerai longuement, et je te parlerai doucement. De quoi te parlerai-je? Je n'en sais rien, je ne veux pas le savoir, et cela n'a aucune importance. Mais j'ai besoin de te parler, Mariquette, de te dire une foule de choses, n'importe lesquelles, et n'écoute pas. Ça ne fait rien. Tu auras beau ne pas écouter, rien de ce que j'aurai dit ne sera perdu. Et quand je ne serai plus à ton côté, comme j'y suis en ce moment, tu te sentiras moins éloigné de moi, car toutes les phrases que tu auras entendues, même sans les avoir écoutées, toutes, elles te reviendront, comme des caresses. Et il te semblera alors que je suis encore auprès de toi, et que je te parle toujours.
Puisque tu es là, à quoi bon parler? Je te comprends sans cela.
Et tu m'aimes?
Je t'aime.
Est-ce que tu te souviens du moment précis où nous avons commencé à nous aimer?
Il ne me semble pas que nous ayons commencé, mais que nous avons tout simplement continué.
Est-ce curieux, l'amour? On ne sait jamais quand il commence.
Qu'est-ce que ça peut bien te faire, pourvu qu'il ne finisse pas?
Et puis, comment nous vient-il, l'amour? Est-ce par un regard, par une parole?
Ça, je l'ignore. Mais ce que je sais, par exemple, c'est qu'une fois qu'il est venu, il faut tout fermer pour qu'il ne puisse plus s'en aller. Alors, pincez, l'amour. Mais c'est bien fait, fallait pas qu'il y aille. Ah, et puis il nous ennuie à la fin, ce gamin-là. C'est vrai, on ne s'occupe que de lui dans la maison. Il est assommant.
Mais on l'aime bien tout de même.
Naturellement, puisque c'est l'amour.
Oh, une jolie définition de lui qui me revient.
Plus jolie que la mienne?
Non, la tienne est la plus mieux de toutes.
À la bonne heure. Maintenant, j'écoute l'autre. De qui est-elle?
D'un nommé Desmoutiers.
Un mathématicien?
Non, un poète.
Et qu'est-ce qu'il a dit de l'amour, ce monsieur le poète?
Ceci. Il est aimable quand il pleure. Il est aimable quand il rit. On le rappelle quand il fuit. On l'adore quand il demeure. C'est le plus aimable boudeur qui soit de Paris à Cythère. C'est le plus aimable imposteur qui soit né pour tromper la terre. Il fait 20 serments aujourd'hui et demain, il les désavoue. On sait qu'il blesse quand il joue, et l'on veut jouer avec lui.
C'est tout?
C'est tout. Qu'en dis-tu?
Je dis que ton poète est un homme abominable. L'amour, un imposteur. L'amour, un trompeur. L'amour, un menteur. L'amour, un parjure. Qu'est-ce que c'est que cet amour-là? Il existe? Tu le connais, toi?
Oh, c'est un amour d'autrefois, qui remonte loin. Loin, jusqu'à la mythologie, au moment où il se nommait Cupidon, comme le mariage s'appelait alors l'hymen.
Ah bon? Au fait, pourquoi la mythologie n'a-t-elle pas fait de l'amour le frère de l'hymen?
Probablement pour ne pas exposer l'amour à devenir incestueux avec sa belle-sœur.
Ça, c'est une raison. Et puisque Riquet est très savant et qu'il trouve tout le temps des réponses à mes questions, je vais lui en poser encore une. Quelle différence faites-vous, monsieur, entre le désir et l'amour?
Ce n'est pas du tout la même chose.
Si c'était la même chose, je ne demanderais pas à Riquet quelle est la différence.
Eh bien, la voici. Le désir, madame, c'est l'amour qui passe, tandis que l'amour, Mariquette, c'est le désir qui reste.
Merci, monsieur.
À mon tour. Quelle différence faites-vous, je vous prie, vous, entre le plaisir et le bonheur?
Il n'y en a qu'une. Mais elle est énorme. Le plaisir, monsieur, c'est se revoir. Mais le bonheur, mon Riquet, c'est se retrouver.
Et quand on se retrouve et qu'on ne se quitte plus, qu'est-ce que c'est alors?
C'est nous deux.
Oui, nous deux. Encore et toujours nous deux. Oh, chérie. Non, mais crois-tu que l'amour serait triste si l'amour n'existait pas?
Qu'est-ce que ça pourrait bien nous faire que l'amour n'existe pas? Nous nous aimerions tout de même, nous.
Dis-moi, Riquette, as-tu déjà entendu parler d'un certain amour qu'on appelle l'amour platonique?
Quelquefois, rarement.
Et tu y crois, l'amour platonique?
Oui, dans les entr'actes.
Dring, dring.
Qu'est-ce que c'est que ça?
C'est la sonnette qui annonce la fin de l'entr'acte.
Oui, mais comme la pièce n'est pas terminée... Chut, chut, taisez-vous, monsieur, et écoutez la fin de la pièce. Qui est-ce qui est attrapé? C'est le petit Riquet.
Oh, c'est pas très drôle ce que tu as trouvé là.
Taisez-vous.
Je me tairai si je veux.
Et moi, je veux que vous vous taisiez.
Alors je n'ai plus le droit de parler.
Non, monsieur. Si la parole a été donnée à l'homme, c'est pour que la femme s'en serve.
Tu es bête.
Tu m'aimes bête ?
Je t'adore. Quand je pense que nous aurions pu ne pas nous aimer.
Ce n'était pas possible.
Cependant, si nous ne nous étions pas connus.
Eh bien, nous nous serions écrits pour faire connaissance.
C'est égal, cette idée que nous aurions pu passer l'un à côté de l'autre dans la vie, sans nous parler.
Tu dis là une absurdité grosse comme toi, mon bon chien. Car si nous étions passés l'un à côté de l'autre, nous n'aurions pas hésité, voyons. Tu te serais écrié tout de suite, toi. Tiens, Riquette. Et moi, tiens, Riquet. Et nous nous serions mis à causer.
Ma Riquette.
Mon Riquet.
Tu m'aimes.
Je t'adore.
Sais-tu quelle heure il est?
Tard.
Minuit.
Minuit? Bonsoir, messieurs.
Bonsoir, mesdames.
Chapitre 10. Variations sur l'amour. Suite. Ce chapitre étant la continuation du chapitre précédent, il y aurait, à demander ce qui s'y passe, autant d'indiscrétion de votre part que de la mienne à vous le raconter. Chapitre 11. Variations sur l'amour. Fin. Chapitre 12. Riquette donne à Riquet une leçon de lexicologie et une gifle.
Quelle petite personne bizarre tout de même que la langue française!
S'écria tout à coup Riquet en fermant le volume qu'il parcourait, d'ailleurs assez distraitement.
Et à propos de quoi, s'il vous plaît, monsieur le Riquet? Cette réflexion aussi inattendue que justifiée sans doute, mais encore inexpliquée? Demanda Riquette.
À propos d'une phrase de ce volume, tiens, écoute.
Il reprit le livre, rechercha la page et lut.
Monsieur Guillaumet ouvrit la porte et entra dans le magasin.
C'est idiot, déclara Riquette.
Non,
dit Riquet en souriant.
Ce n'est pas cette phrase-là qui...
Ah, ça ne fait rien, celle-là me suffit pour juger l'auteur. Il est bête, l'auteur.
Pourquoi cela?
Dit Riquet.
Je ne vois rien dans cette phrase.
Alors, c'est donc que tu es bête aussi, mon pauvre loulou. Comment ? Voilà un auteur qui se croit obligé de nous prévenir que M. Guillaumet ouvrit la porte pour entrer dans le magasin. Comment serait-il entré dans le magasin s'il n'avait pas ouvert la porte ? Il serait passé à travers, alors ?
Tiens, oui, le fait est...
Il est plus que bête, ton auteur, mon chéri. Il est bêta. Qui est-ce ?
Regarde,
dit Riquet en lui montrant le nom sur la couverture du volume.
Ah ! S'exclama Riquette. Et il est de l'Académie. Eh bien, pour y entrer à l'académie, il n'a pas besoin de nous le dire, mais il a dû ouvrir la porte, lui.
À moins qu'il ne l'ait enfoncé,
dit Riquet. Elle eut un petit haussement d'épaule.
Avec des phrases comme celle de tout à l'heure? Enfoncer la porte? Non, je croirais plutôt qu'il l'a trouvée ouverte.
Je continue,
dit Riquet.
Monsieur Guillaumet ouvrit la porte et entra dans le magasin. Bonjour, monsieur, dit-il. Je désirerais voir un orgue. Oui,
expliqua Riquet.
Ça se passe chez un fabricant d'instruments de musique.
Il reprit sa lecture.
Très bien, monsieur, répondit le marchand avec une politesse empressée. Si vous voulez bien venir de ce côté, tenez, voici déjà un orgue excellent et pas très cher. Je le trouve un peu simple, répondit monsieur Guillaumet. J'en voudrais un plus beau. Montrez-moi d'autres plus belles.
Comment de plus belles? Répéta Riquet étonné.
Voilà justement
dit Riquet en fermant le volume.
Une de ces cocasseries à laquelle je faisais allusion. Orgue masculin au singulier, féminin au pluriel. Tu ne trouves pas cela absurde ?
C'est comme amour, dit Riquet, à qui la comparaison vint tout de suite. Masculin aussi au singulier, amour, et au pluriel, féminin. Pourquoi ?
Là, il y a peut-être une raison,
fit Riquet. Laquelle ?
C'est que...
commença-t-il. Mais il s'arrêta net. C'est que quoi ? Dit Riquet.
Je veux bien t'expliquer, mais à la condition que je recevrai, après, la gifle qu'aura mérité l'explication que je vais te donner.
Ah bon ? Parle, mon chéri, parle, et après, tu auras la gifle. La veux-tu avant, mon bon toutou, pour être plus sûr de l'avoir ?
Non. Eh bien, voici. Amour au singulier signifie, n'est-ce pas, amour seul, amour unique. Il était donc logique d'en faire un masculin et de le réserver ainsi exclusivement à l'homme qui, lui, représente mieux la fidélité. Tandis que...
Au pluriel, continua Riquet, comme il signifie, n'est-ce pas, plusieurs amours, alors...
Alors...
acheva Riquet.
Il a paru tout naturel de l'attribuer au sexe féminin qui, lui, est plus volage.
Et il tendit la joue en fermant les yeux pour recevoir la gifle demandée et promise. Mais la gifle ne vint pas. Tout surpris, il rouvrit les yeux et vit Riquet qui le regardait avec un air exquisément pitoyable et dédaigneux. « Et c'est pour cette belle trouvaille, dit-elle enfin, que tu espères une gifle ? Mais mon pauvre monsieur, ça ne la mérite même pas, tellement votre explication est piteuse. »
Tu en as une meilleure ?
Demanda-t-il. Oui, monsieur, et je veux bien condescendre à vous la donner, pauvre être borné que vous êtes. Alors, avec le ton, les attitudes d'un pédagogue qui fait la leçon à un élève pour qui il éprouve la plus profonde commisération, Riquet commença. Peut-être ignorez-vous, ce qui m'étonnerait peu, car vous ne me semblez pas savoir grand-chose. Peut-être ignorez-vous, dis-je, que c'est le bon Dieu qui a fait la grammaire française ?
J'avoue en effet que je l'ignorais,
déclara sincèrement Riquet. Eh bien, je vous l'apprends. Or, quand le bon Dieu, au cours de son travail, arriva au mot « amour » et qu'il fallut établir l'état civil de ce mot-là et déterminer le sexe à lui attribuer, masculin ou féminin, le bon Dieu demeura très très embarrassé.
Vous croyez sérieusement, mon cher maître ?
Interrogea humblement l'élève Riquet.
Que le bon Dieu s'embarrassa pour si peu ?
Oui, monsieur, et il y avait de quoi. Là où vous ne voyez, vous, qu'une difficulté grammaticale, le bon Dieu, lui, voyait autre chose. Il voyait plus haut, plus loin. Il pressentait que ce mot « amour » serait, parmi tous les autres, celui qui intéresserait, qui passionnerait le plus les humains. Sans compter, ajouta Riquet, qu'amour étant le nom d'un petit dieu d'autrefois, le bon Dieu se devait à lui-même d'avoir quelques égards pour un ancien confrère, même tout petit.
C'est vrai,
approuva Riquet. Ce que je dis est toujours vrai, riposta sévèrement Riquet, et je n'ai pas besoin de votre approbation.
Alors je la retire.
Trop tard, monsieur, je la garde et je continue. En faisant amour féminin, Dieu risquait de mécontenter les hommes, mais d'autre part, il s'exposait aux récriminations des femmes si amour était déclaré masculin. Comment se tirer de là sans froisser personne ? Tout à coup, Dieu s'écria : « Tiens, que je suis bête ! » !»« Oh ! » protesta Riquet.
« Bête, le bon Dieu. »
« Et pourquoi pas ? » dit Riquet sans se troubler. « S'il plaît au bon Dieu d'être bête, c'est son droit. N'est-il pas tout-puissant ?»«
C'est juste. »
fit Riquet, collé par la logique de l'argument. Riquet poursuivit. « Le bon Dieu venait de trouver le moyen de satisfaire tout le monde. C'était de couper tout simplement la poire en deux et, grâce au singulier et au pluriel, de concilier sans les froisser les deux sexes dans le même mot. Mais... auquel accorder le singulier ? Auquel le pluriel ? Dieu n'hésita pas un instant. Connaissant l'homme comme s'il l'avait fait, ce qui était le cas du reste,
et le sachant petit, mesquin, intéressé, personnel, égoïste, incapable, je n'irai pas jusqu'à dire d'un seul bon sentiment, mais en tout cas de deux bons sentiments à la fois. Dieu pensa, à quoi bon gâcher un pluriel pour un être pareil ? Il économisera dessus afin d'en faire un singulier. Autant lui concéder le singulier tout de suite. Tandis que la femme, ah, la femme, c'est autre chose. Car de quoi n'est-elle pas capable, la femme ?
De tout,
murmura Riquet. Riquette releva le mot. Oui, monsieur, de tout, vous l'avez dit. De tout ce qu'il y a de bon, de désintéressé, d'élevé, de meilleur enfin. Affection, tendresse, attachement, dévouement, passion, bonté, générosité, délicatesse, charité, pitié, pardon, abnégation, renoncement, sacrifice, amour enfin. Amour sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations. Voilà la femme, voilà ses qualités, affirma le bon Dieu.
Et
demanda doucement Riquet.
Il n'en poussa pas plus loin l'énumération.
Il l'aurait pu, car elle était loin d'être terminée. Mais si le bon Dieu s'arrêta, c'est qu'il était essoufflé.
Je comprends ça,
dit Riquet.
On le serait à moins.
Quand il eut repris son souffle, il conclut. Et pour exprimer tout cela, il n'y aurait qu'un mot, un seul, et ce mot serait singulier. Allons donc, ce n'est pas possible, ce n'est pas juste. Et voilà pourquoi, monsieur, amour, masculin au singulier et féminin au pluriel. Et la leçon terminée, le professeur redevint immédiatement gamin et se mit à jouer avec son élève comme s'ils eussent été tous deux de la même classe, quoique pas du même sexe, ainsi que le mot qui avait fait l'objet de la discussion. Quand la récréation fut terminée, Riquet dit
« Puis-je maintenant te soumettre une toute petite observation.
Tu peux.
Eh bien, en énumérant les nombreuses qualités de la femme, il me semble que tu en as oublié une.
Ah ? Laquelle ?
La modestie.
J'en ai même oublié une autre, dit Riquette sans se fâcher.
Qui est ?
Le souci de tenir ses engagements. Je t'avais promis une gifle ? La voilà. Et cette gifle, appliquée de main de maître, ou plutôt de maîtresse, encore une bizarrerie de la langue française. Cette gifle transporta Riquet de joie, car elle lui prouvait une fois de plus que Riquette était décidément une adorable petite femme qui ne manquait jamais à ses serments.